Nous n'essayerons pas de dépeindre la stupéfaction et l'épouvante des saints frères lorsque l'évêque d'Hereford parut devant eux, le visage enluminé, la démarche chancelante et les vêtements en désordre. Le lendemain de ce funeste jour, le prélat faillit devenir fou de honte, de rage et d'humiliation. Il passa de longues heures en prière, demandant à Dieu de lui pardonner ses fautes et implorant la protection divine contre le misérable Robin Hood. À la requête du prélat outragé, le prieur de Sainte-Marie fit armer une cinquantaine d'hommes et les mit à la disposition de son hôte. Alors, le cœur bouillonnant de colère, l'évêque entraîna cette petite armée à la poursuite du célèbre outlaw. Ce jour-là, Robin Hood, qui désirait se rendre compte par lui-même de la situation de Sir Richard de la Plaine, suivait solitairement un sentier dont les dernières limites allaient aboutir au grand chemin. Le bruit d'une nombreuse cavalcade attira l'attention de Robin. Il hâta le pas dans la direction suivie par les nouveaux venus et se trouva face à face avec l'évêque d'Hereford. Robin Hood ! S'écria l'évêque en reconnaissant notre héros. C'est Robin Hood ! Prêtre, rendez-vous ! Comme on doit bien le penser, Robin Hood n'avait nullement le désir de répondre à cette intimidation. Cerné de toutes parts, hors d'état de se défendre et même d'appeler les joyeux hommes à son aide, il se glissa audacieusement entre deux cavaliers qui faisaient mine de vouloir lui barrer le chemin et il s'élança avec une vélocité de cerf vers une petite maison située à un quart de mille de l'endroit où se trouvaient les soldats de l'évêque. Ceux-ci se mirent à la poursuite du jeune homme, mais, obligés de faire un détour, ils ne purent atteindre aussi rapidement que lui la maison où il allait sans doute demander un asile. Robin Hood avait trouvé ouverte la porte de cette maison. Il y était entré et en avait barricadé les fenêtres sans prendre garde aux clameurs d'une vieille femme assise devant un rouet. « Ne craignez rien, ma bonne mère, » dit Robin lorsqu'il eut achevé la clôture des portes et celle des fenêtres. « Je ne suis point un voleur, mais un pauvre malheureux à qui vous pouvez rendre un service. »«
Quel service ? Comment vous nommez-vous ? » demanda la vieille femme d'un ton fort peu rassuré.
« Je suis un proscrit, ma bonne mère. Je suis Robin Hood. L'évêque d'Hereford est à ma poursuite et en veut à ma vie. »«
Eh quoi ? Vous êtes Robin Hood ?» dit la paysanne en joignant les mains. « Le noble et généreux Robin Hood, Dieu soit loué d'avoir permis à une pauvre créature comme moi de payer sa dette de reconnaissance au charitable proscrit. Regardez-moi, mon enfant, et cherchez dans le souvenir de vos œuvres bienfaisantes les traits de celle qui vous parle aujourd'hui. Il y a de cela 2 ans. Vous êtes entré ici par hasard, dirait une femme ingrate, et moi je dis, amené par la divine providence. Vous m'avez trouvé seule, pauvre et malade. Je venais de perdre mon mari, je n'avais plus qu'à mourir. Vos douces et consolantes paroles me rendirent le courage, les forces, la santé. Le lendemain, un homme envoyé par vos ordres m'apporta des vivres, des vêtements, de l'argent. Je lui demandai le nom de mon généreux bienfaiteur et il me répondit « Il s'appelle Robin Hood. » Depuis ce jour, mon enfant, votre nom s'est trouvé dans toutes mes prières. Ma maison est à vous, ma vie est votre bien. Disposez de votre servante. « Merci, ma bonne mère, » répondit Robin Hood en serrant avec amitié les mains tremblantes de la paysanne. « Je demande votre assistance, non par crainte du danger, mais pour éviter une inutile effusion de sang. L'évêque est accompagné d'une cinquantaine d'hommes et, comme vous le voyez, la lutte entre nous est impossible, je suis seul. Si vos ennemis découvrent le lieu de votre retraite, ils vous assassineront, » dit la vieille femme. « Soyez sans inquiétude, ma bonne mère, ils ne pourront en venir à cette extrémité. » Nous allons inventer un moyen de nous soustraire à leur violence. Quel moyen, mon enfant ? Parlez, je suis prête à vous obéir.
Voulez-vous échanger vos vêtements contre les miens ?
Échanger nos vêtements ? S'écria la vieille paysanne. Je crains, mon fils, que cette ruse ne soit inutile. Comment voulez-vous pouvoir transformer une femme de mon âge en galant cavalier ?
« Je vous déguiserai si bien, ma bonne mère, » répondit Robin, « qu'il vous sera possible de tromper des soldats auxquels mon visage est probablement inconnu.
Vous feindrez l'ivresse, et Monseigneur d'Hereford sera si empressé de se saisir de ma personne qu'il ne verra que le costume. » La transformation fut vite opérée. Robin endossa la robe grise et la coiffe de la vieille dame, puis il l'aida à revêtir ses chausses, sa tunique et ses brodequins. Cela fait, Robin cacha soigneusement les cheveux gris de la paysanne sous son élégante toque et il lui attacha ses armes à la ceinture. Le double déguisement était achevé lorsque les soldats arrivèrent devant la porte de la petite maison. Ils frappèrent d'abord à coups redoublés, puis un soldat proposa à l'évêque d'enfoncer la porte avec les pieds de derrière de son cheval. Le prélat accueillit favorablement la proposition. Le cavalier tourna aussitôt son cheval et le lança contre la porte en le piquant de sa lance. Cette piqûre produisit un effet contraire à celui qu'en attendait le soldat, car l'animal, se cabrant avec force, désarçonna son cavalier. L'évolution du pauvre soldat, il avait traversé l'espace avec la rapidité d'une flèche, eut un résultat désastreux. L'évêque, qui s'était approché afin de voir tomber la porte et fermer le passage à Robin Hood, si celui-ci tentait de fuir, fut violemment frappé au visage par les éperons du soldat. La douleur occasionnée par ce coup exaspéra tellement le vieillard que, sans réfléchir à l'injuste cruauté de sa fureur, il leva l'espèce de massue qu'il portait à la main comme un signe de son rang et acheva d'assommer le malheureux étendu demi-mort au pied du cheval en révolte. Au beau milieu de la vaillante occupation à laquelle se livrait Monseigneur d'Hereford, la porte de la maisonnette s'ouvrit. « Serrez vos rangs !» cria l'évêque d'une voix impérative. « Serrez vos rangs !» Les soldats se pressèrent en tumulte autour de la maison. L'évêque descendit de cheval, mais, mettant pied à terre, il trébucha sur le corps du soldat ensanglanté et alla tomber la tête la première dans l'ouverture béante de la porte. La confusion produite par ce grotesque accident servit à merveille les projets de Robin Hood. Étourdi et tout essoufflé, l'évêque regarda sans l'examiner un personnage qui se tenait immobile dans le coin le plus obscur de la chambre. « Saisissez ce coquin !» cria Monseigneur en désignant la vieille femme à ses soldats. « Mettez-lui un baillon, liez-le sur un cheval, votre vie me répond de sa capture. Car si vous le laissiez échapper, vous seriez tous pendus sans miséricorde. » Les soldats se précipitèrent sur la personne indiquée par les clameurs furieuses de leur chef et, à défaut de baillon, ils enveloppèrent le visage de la vieille femme d'un large mouchoir qui leur était tombé sous la main. Audacieux jusqu'à l'imprudence, Robin Hood implora, d'une voix tremblante, la grâce du prisonnier. Mais l'évêque le repoussa et sortit de la maisonnette après avoir eu l'extrême satisfaction de voir son ennemi pieds et poings liés sur le dos d'un cheval. Malade et presque éborgné par la blessure qui avait balafré son visage, Monseigneur se remit en selle et ordonna à ses gens de le suivre à l'arbre du rendez-vous des Outlaws. C'était à la plus haute branche de cet arbre que l'évêque se proposait de faire pendre Robin. Il tenait fort le digne prélat à donner aux proscrits un épouvantable avertissement de leur sort futur s'ils continuaient à suivre le mode d'existence de leur misérable chef. Aussitôt que la cavalcade se fut enfoncée dans les profondeurs du bois, Robin Hood sortit de la maisonnette et se dirigea en courant vers l'arbre du rendez-vous. Il venait d'entrer dans une clairière lorsqu'il aperçut, mais à une distance encore considérable, Petit-Jean, Will Écarlate et Mulch. « Regardez donc là-bas, au milieu de la clairière, disait Jean à ses deux amis, l'étrange personne qui nous arrive. On dirait une vieille sorcière. Par Notre-Dame, si je pouvais croire à cette mégère des intentions hostiles, je lui enverrais une bonne flèche. »« Ta flèche ne saurait l'atteindre, répondit Will en riant. « Et pourquoi donc, je te prie, mets-tu mon adresse en doute ?»« Pas le moins du monde, mais si, comme tu le supposes, cette femme est sorcière, elle arrêtera le vol de tes flèches. » « Ma foi, dit Mulch, qui n'avait pas détourné son attention de la bizarre voyageuse, je me range à l'avis de Petit-Jean. Cette dame me paraît fort extraordinaire. Sa taille est gigantesque, puis elle ne marche pas comme une personne de son sexe, elle enjambe le terrain par des bonds prodigieux. » Elle m'effraie, et si vous le permettez, Will, nous allons mettre à l'épreuve la puissance de la sorcellerie dont elle nous semble si richement dotée. N'agissez pas à la légère, Mulch, répondit Will. cette pauvre créature porte des vêtements dignes de tout notre respect. Puis, quant à moi, vous le savez, je suis incapable de faire du mal à une femme. Qui sait encore si ce monstre femelle est une sorcière ? Il ne faut pas se fier aux apparences, car il arrive souvent qu'une vilaine écorce sert d'enveloppe à un excellent fruit. En dépit du ridicule de son extérieur, la pauvre vieille dame est peut-être une bonne personne, une honnête chrétienne. Ménagez-la, et afin de vous rendre l'indulgence plus douce, songez aux ordres de Robin. Ces ordres nous interdisent toute démonstration hostile ou seulement irrespectueuse à l'égard des femmes. Petit-Jean fit mine de bander son arc et d'en pointer la direction de la flèche sur la prétendue sorcière. Arrêtez ! Cria une voix grave et sonore. Les trois jeunes gens jetèrent un cri de surprise. « Je suis Robin Hood !» ajouta le personnage qui avait si vivement occupé l'attention des forestiers et, en disant son nom, Robin arracha la coiffe qui couvrait sa tête et une grande partie de ses traits. « J'étais donc tout à fait méconnaissable !» demanda notre héros lorsqu'il eut rejoint ses compagnons. « Vous étiez fort laid, mon cher ami !» répondit Will. « Pour quelle raison avez-vous pris un déguisement aussi disgracieux ?» demanda Mush. Robin raconta en peu de mots à ses amis la mésaventure qui lui était arrivée. « Maintenant, ajouta Robin après avoir achevé son récit, songeons à nous défendre. Il faut avant toute chose me procurer des vêtements. Vous allez, mon cher Mush, me rendre le service de courir en toute hâte au magasin et de m'en rapporter un costume convenable. » Pendant ce temps-là, Will et Jean réuniront autour de l'arbre du rendez-vous tous les hommes qui se trouvent dans la forêt. Dépêchez-vous, mes garçons, je vous promets un dédommagement à tous les ennuis que nous cause Monseigneur d'Hereford. Petit-Jean et Will s'élancèrent dans la forêt par deux directions différentes et Mutch alla chercher les vêtements demandés par Robin. Une heure après, revêtu d'un élégant costume d'archer, Robin se trouvait à l'arbre du rendez-vous. Jean amena 60 hommes et Will en réunit une quarantaine. Robin dissémina sa troupe dans les fourrés qui formaient à la clairière une impénétrable ceinture et alla s'asseoir au pied du grand arbre désigné par Monseigneur pour lui servir de potence. À peine ses dispositions étaient-elles prises que l'approche de la cavalcade fit retentir le sol. L'évêque parut, accompagné de toute sa suite. Lorsque les soldats eurent pénétré au centre de la clairière, le son d'un cor résonna dans l'air, le feuillage des jeunes arbres s'agita et de tous les côtés de cette haie de verdure sortirent des hommes armés jusqu'aux dents. À la vue de la formidable apparition des forestiers qui, sur un signe de leur chef encore invisible à l'évêque, se rangeaient en bataille, un frisson glacial parcourut les membres du prélat. Il jeta autour de lui un regard épouvanté et aperçut un jeune homme revêtu d'une tunique écarlate qui, les paroles du commandement aux lèvres, dirigeait la troupe des outlaws. « Quel est cet homme ?» demanda l'évêque en désignant Robin à un soldat proche voisin du prisonnier lié sur le cheval. « Cet homme est Robin Hood !» répondit le prisonnier d'une voix tremblante. « Robin Hood ?» s'exclama l'évêque. « Et qui donc es-tu, misérable ?»«
Je suis une femme, monseigneur, une pauvre vieille femme !»
« Malheur sur toi, affreuse sorcière !» cria l'évêque exaspéré. « Malheur sur toi !»« Allons, mes enfants !» ajouta Monseigneur en faisant un geste d'appel à sa troupe. « Lancez-vous dans la clairière, ne craignez rien. Tracez un chemin avec la pointe de votre épée à travers les rangs de ces misérables. En avant, mes braves cœurs, en avant !» Les braves cœurs trouvèrent sans doute que si l'ordre d'attaquer les proscrits était facile à donner, il était plus difficile à mettre en action car ils restèrent immobiles. Sur un signal de Robin, les forestiers ajustèrent leurs flèches et levèrent leurs arcs avec un ensemble admirable, et leur réputation d'adresse était si connue et si redoutée que les soldats de l'évêque, non contents de rester inactifs, se courbèrent entièrement sur leurs selles. « Bas les armes !» dit Robin Hood. « Détachez le prisonnier !» Les soldats obéirent aux ordres du jeune homme. « Ma bonne mère, dit Robin en attirant la vieille femme en dehors de la clairière, regagne ta demeure, je t'enverrai demain la récompense de ta bonne action. Va vite, je n'ai pas le temps de te remercier aujourd'hui, mais n'oublie pas que ma reconnaissance est grande. » La bonne vieille baisa les mains de Robin Hood et s'éloigna accompagnée d'un guide.
Ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié de moi !»
criait l'évêque en se tordant les mains. Robin Hood s'approcha de son ennemi.
« Soyez le bienvenu, monseigneur, dit-il d'une voix caressante, et permettez-moi de vous remercier de votre visite. Mon hospitalité, je le vois, a des charmes si grands que vous n'ayez pu résister au désir d'en partager encore le joyeux entrain. »
L'évêque jeta sur Robin un regard désespéré et laissa échapper de ses lèvres un profond soupir.
« Vous me paraissez triste, monseigneur, reprit Robin. Quel chagrin avez-vous? N'êtes-vous pas heureux de me revoir ?»«
Je ne puis dire que j'en sois content, répondit l'évêque, car la position dans laquelle je me trouve rend ce sentiment impossible. Vous devinez sans peine avec quelle intention j'étais venu ici, et naturellement, vous vous vengez de moi en toute liberté de conscience, puisque vous frappez un antagoniste. Cependant, je crois devoir vous dire ceci. Laissez-moi partir, et jamais, dans aucune circonstance, je ne chercherai à vous faire du mal. Laissez-moi partir avec mes hommes, et votre âme n'aura point à répondre devant Dieu d'un péché mortel. Car ce serait un péché mortel que d'attenter à l'existence d'un grand prêtre de la Sainte Église.
Je hais le meurtre et la violence, monseigneur, répondit Robin Hood, et mes actions en donnent journellement la preuve. Je n'attaque jamais. Je me contente de défendre ma vie et celle des braves gens qui se sont confiés à moi. Si j'avais dans le cœur le moindre sentiment de haine ou de rancune contre vous, monseigneur, je vous infligerais le supplice que vous aviez l'intention de me faire subir. Il n'en est pas ainsi, je n'ai point de haine pour vous et je ne me venge jamais du mal qu'on n'a pas réussi à me faire. Je vais donc vous rendre votre liberté, mais à une condition.
« Parlez, messire, dit poliment l'évêque.
Vous allez me promettre de respecter mon indépendance, la liberté de mes hommes, vous allez me jurer qu'à aucune époque de l'avenir et dans aucune circonstance, vous ne prêterez les mains à un attentat contre ma vie.
Je vous ai promis de mon propre gré de ne vous faire aucun mal, répondit doucement l'évêque.
Une promesse n'engage à rien, une conscience peut timorer, monseigneur. Je désire un serment.
Je jure par Saint-Paul de vous laisser vivre à votre guise.
Très bien, monseigneur. Maintenant, vous êtes libre.
Je vous remercie mille fois, Robin Hood. Veuillez donner l'ordre qu'on réunisse mes hommes. Ils se sont dispersés et fraternisent déjà avec vos compagnons.
Je vous obéis, monseigneur. Dans quelques minutes, les soldats seront en selle. Voulez-vous accepter, en attendant l'heure du départ, un léger rafraîchissement ?
Rien, je ne veux rien, se hâta de répondre l'évêque, épouvanté à l'audition seule de cette dangereuse proposition.
Vous êtes à jeun depuis longtemps, monseigneur, et une tranche de pâté.
Pas un morceau, mon cher hôte, pas même un morceau.
Alors, une coupe de bon vin?
Non, non, 100 fois non.
Vous ne voulez donc ni boire ni manger avec moi, monseigneur?
Je n'ai ni faim ni soif, je désire m'éloigner, voilà tout. Ne cherchez pas à me retenir plus longtemps, je vous en supplie.
Que votre volonté soit faite, monseigneur.
Petit Jean, ajouta Robin, sa seigneurie demande à nous quitter.
« Sa seigneurie en est parfaitement la maîtresse, répondit Jean d'un ton goguenard, et je vais lui donner sa note. »«
Ma note ? » répéta l'évêque d'un ton surpris. « Que voulez-vous dire ? Je n'ai bu ni mangé. »«
Oh, cela ne fait rien, répondit Jean d'un air tranquille. Du moment où vous êtes dans l'hôtellerie, vous en partagez la dépense. Vos hommes ont faim, ils demandent des vivres. Vos chevaux sont déjà rassasiés. » Il ne faut pas non plus que, victimes de votre sobriété, nous soyons condamnés à ne rien recevoir, parce qu'il vous plaît de ne rien accepter. Nous demandons largesse pour les serviteurs qui se fatiguent à héberger bêtes et gens.
« Prenez ce que vous voudrez, répondit impatiemment l'évêque, et laissez-moi partir. »
« Le sac est-il toujours dans le même endroit ? Demanda Petit Jean.
« Le voici, répondit l'évêque en désignant un petit sac de cuir attaché à l'arçon de la selle de son cheval.
« Il me semble plus lourd qu'il ne l'était à votre dernière visite, monseigneur. »
« Je le crois bien, répondit l'évêque en faisant des efforts désespérés pour paraître calme. Il contient une somme beaucoup plus forte. » Vous m'en voyez ravi, monseigneur, et peut-on vous demander combien il y a dans cette gentille sacoche ?
500 pièces d'or.
C'est admirable, quelle générosité de venir ici avec un pareil trésor, répondit ironiquement le jeune homme.
Ce trésor, balbutia l'évêque, nous allons le partager, n'est-ce pas ? Vous n'oseriez pas me dépouiller entièrement, me voler une somme aussi considérable ?
Vous voler ? Répéta Petit Jean d'un ton de dédain. Quel mot venez-vous de dire ? Vous ne comprenez donc pas la différence qui existe entre voler ou prendre à un homme ce qui ne lui appartient pas ? Vous avez conquis cet argent à l'aide de faux prétextes, vous l'avez pris à ceux qui en ont besoin et je désire le leur rendre. Vous voyez bien, monseigneur, que je ne vous vole pas.
Nous appelons notre manière d'agir de la philosophie forestière, dit Robin Hood en riant.
La légalité de cette philosophie est douteuse, repartit l'évêque. Mais, ne pouvant me défendre, je suis obligé de subir tout ce qu'il vous plaît d'exiger. Prenez donc ma bourse.
J'ai encore une demande à vous adresser, monseigneur, reprit Jean.
Laquelle ? Interrogea anxieusement l'évêque.
Notre directeur spirituel, répondit Jean, n'est pas à Barzel dans ce moment-ci, et comme il y a longtemps que nous n'avons profité de sa pleine assistance, nous venons vous supplier, monseigneur, de vouloir nous dire une messe.
Quelle profane demande osez-vous m'adresser ? S'écria l'évêque. Je préférerais la mort à l'accomplissement d'une pareille impiété.
Il est cependant de votre devoir, monseigneur, dit Robin, de nous aider en tout temps à adorer Dieu. Petit Jean a raison, depuis plusieurs semaines, nous n'avons eu le bonheur d'assister au saint sacrifice de la messe et nous ne pouvons laisser perdre l'heureuse occasion qui se présente aujourd'hui. Veuillez donc vous préparer, je vous prie, à satisfaire à notre juste demande.
Ce serait un péché mortel, un crime, et je m'attendrais à être frappé de la main de Dieu si je consentais à commettre cet indigne sacrilège, répondit l'évêque, pourpre de colère.
Monseigneur, reprit gravement Robin, nous révérons avec l'humilité la plus chrétienne les divins symboles de la religion catholique, et croyez-moi, vous ne trouverez jamais, même dans l'enceinte de votre vaste cathédrale, des auditeurs plus attentifs ni plus recueillis que le sont les outlaws de la forêt de Sherwood.
Puis-je ajouter foi à vos paroles ? Interrogea l'évêque d'un ton rempli de doute.
Oui, monseigneur, et vous allez bientôt en reconnaître l'exacte vérité.
Allons, je veux bien vous croire. Conduisez-moi à la chapelle.
Venez, monseigneur.
Robin se dirigea, suivi de l'évêque, vers un enclos situé à une courte distance de l'arbre du rendez-vous. Là, au centre d'une espèce de vallée, se trouvait un hôtel de terre, garni d'une couche épaisse de mousse entremêlée de fleurs. Tous les objets nécessaires à la célébration du Saint-Sacrifice étaient disposés sur le maître-autel avec un goût exquis, et sa révérence parut émerveillée de la fraîcheur de ce reposoir naturel. Ce fut alors un touchant spectacle que de voir cette troupe, composée de 150 à 200 hommes, pieusement agenouillée, tête nue, le cœur et l'esprit en prière. Après la messe, les joyeux hommes témoignèrent au prélat toute leur gratitude, et celui-ci avait été si étonné de l'attitude respectueuse des forestiers pendant le cours du Saint-Office qu'il ne put résister au désir d'adresser à Robin une foule de questions sur sa manière de vivre sous les grands arbres du vieux bois. Tandis que Robin répondait avec une courtoisie charmante aux interrogations de l'évêque, les forestiers faisaient attabler les soldats devant un copieux repas et Mulch veillait à la préparation du plus délicat festin qui se fût jamais servi dans la verte forêt. Insensiblement amené par Robin devant les joyeux convives et la vue de leur gaieté dissipa les derniers vestiges de sa mauvaise humeur.
Vos hommes emploient très bien leur temps, dit Robin en désignant à sa révérence le groupe le plus vorace de toute l'assemblée.
Ils mangent, en effet, avec un grand appétit.
Ils devaient avoir faim, monseigneur. Il est 2 heures et moi-même je sens le besoin de prendre quelque chose. Voulez-vous accepter votre part d'un petit dîner sans façon ?
Merci, mon cher hôte, merci, répondit l'évêque en tâchant de rester sourd aux appels réitérés de son estomac. Je ne veux rien, quoique j'éprouve une légère atteinte de la faim.
Il ne faut jamais contrarier les besoins de la nature, monseigneur, répondit Robin d'un air sérieux.
L'esprit et le cœur en souffrent et la santé se perd. Allons, prenez place sur ce tapis de verdure. On va vous servir et vous ne mangerez qu'un peu de pain si vous craignez de retarder votre départ. »
« Il faut donc absolument vous obéir, » dit l'évêque avec une expression de joie vainement dissimulée.
« Vous n'y êtes pas contraint, monseigneur, » répliqua Robin d'un ton malicieux, « et s'il vous déplaît de goûter avec moi ce délicieux pâté de venaison, au vin exquis contenu dans cette bouteille, abstenez-vous, je vous prie, car il est encore plus dangereux de forcer son estomac à recevoir des aliments que de le priver de toute nourriture pendant plusieurs heures. »
« Oh, je ne force pas mon estomac, » repartit l'évêque en riant. « Je suis doué d'un excellent appétit, et comme il y a fort longtemps que je suis à jeun, je crois pouvoir faire honneur à votre aimable invitation. »
« Alors, à table, monseigneur, et bon appétit !»
L'évêque d'Erfort dîna bien. Il aimait à boire, et le vin que Robin Hood lui versait était si capiteux qu'à la fin du repas, sa seigneurie devint tout à fait ivre. Puis, vers le soir, Monseigneur rentra à l'abbaye de Sainte-Marie dans une situation d'esprit et de corps qui fit jeter de nouveaux cris d'horreur et d'indignation aux pieux moines du monastère.